Chaque heure compte. Passez à l'action avec Bougardier. Des financements sur mesure pour les audacieux, de l'hypothèque à la fiducie-sûreté. Et c'est sur bougardier.fr.
Bonne journée, bon réveil à l'écoute de Radio Classique. Il est 8h.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et le journal de 8h avec Virginie Fulpin.
Quand les couacs diplomatiques grippent l'économie, les tensions entre la France et l'Algérie ont des conséquences pour les 400 entreprises françaises installées en Algérie. L'Ukraine, au menu des discussions à l'Élysée. Aujourd'hui, Emmanuel Macron reçoit le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio. Mystère et inquiétude avec la multiplication des attaques contre les prisons françaises. Qui est derrière? Les agents pénitentiaires vivent dans la crainte.
À suivre, l'édito politique de Guillaume Tabar. Enfin, trois nuits de violence contre les prisons, leurs gardiens. Qui se cache derrière le mystérieux groupe DDPF? Le journaliste d'investigation Frédéric Ploquin est l'invité de Radio Classique à 8h15. À la une, Virginie, les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie ont aussi des conséquences économiques.
Il y a les expulsions d'agents diplomatiques de chaque côté et maintenant c'est le patronat algérien qui annule une visite en France. Jusqu'ici, pourtant, les organisations patronales des deux pays continuaient à travailler ensemble. Cette rupture inquiète Michel Bizac, le président de la Chambre du commerce et de l'industrie algéro-française.
Les soubresauts politiques, jusqu'à maintenant, ne nous avaient pas atteints. Parfois, vous avez des problèmes, par exemple à la douane ou pour importer, par exemple, les produits en agroalimentaire, etc. Mais il ne s'était pas passé grand-chose au niveau des rétorsions économiques. Sauf que il y a eu pas mal de rebondissements et malheureusement, l'économie a rejoint le politique. Et donc aujourd'hui, nous avons tout à craindre pour les quelques mois qui viennent. En tout cas, je ne sais pas où cette spirale va nous mener. Cela fait 19 ans exactement que j'ai mon entreprise à Alger. Je n'ai jamais vu une crise pareille. Jamais.
Alors, si on imagine le pire, une rupture des relations commerciales, Zoé Pallier, quelles seront les conséquences pour les 400 entreprises françaises installées en Algérie et pour l'économie des deux pays ?
Il y aura des perdants des deux côtés, souligne l'économiste d'affaires Saïdan, spécialiste du sujet. Car les échanges entre la France et l'Algérie, c'est 11 milliards d'euros en 2024. Nous importons leurs hydrocarbures, ils achètent nos produits industriels, équipements automobiles par exemple, ou encore produits pharmaceutiques. Et puis, il y a les investissements d'entreprises françaises en Algérie, marché à fort potentiel, avec une population de plus en plus nombreuse et de plus en plus riche. D'après nos informations, le Quai d'Orsay n'a pour l'instant pas donné de consignes particulières, mais les chefs d'entreprise s'interrogent. La situation ne favorise pas nos intérêts, on n'arrête pas encore nos investissements, mais on espère que les choses vont s'apaiser, confie l'entourage d'un grand patron français. En attendant, l'Algérie, elle, multiplie les contacts avec ses nouveaux partenaires commerciaux privilégiés, comme la Chine et l'Italie.
Le commerce mondial, justement, va reculer cette année. La politique de Donald Trump et ses droits de douane a des conséquences très concrètes. C'est l'Organisation mondiale du commerce qui le dit avec un recul attendu d'au moins 0,2%. Aujourd'hui, le président américain reçoit Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, veut vanter le « made in Italy », mais la Commission européenne lui demande de s'exprimer pour tous ses partenaires européens. Donald Trump continue sa croisade contre Harvard. Il menace maintenant d'interdire à l'université d'accueillir des étudiants étrangers si elle n'accepte pas de se soumettre à un contrôle en matière d'admission, d'embauche et d'orientation politique. L'Ukraine, au programme des discussions. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et l'émissaire Steve Witkoff pour avancer vers la fin de la guerre alors que les frappes continuent, Lucie Dupressoir.
Donald Trump avait promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en 100 jours, un compte à rebours qui expire à la fin du mois. Il y a donc urgence à accélérer les négociations, estime André Caspi, historien des États-Unis.
Ça veut dire que pour Donald Trump, il faut se débarrasser du dossier ukrainien, il faut passer à autre chose. Il a tout fait pour essayer d'arrêter le conflit. S'il n'y est pas parvenu, ça n'est pas sa faute à lui. C'est surtout la faute de Poutine.
Car le président américain s'est heurté jusque-là au fonctionnement diplomatique russe, explique Ulrich Bouna, géopolitologue spécialiste de l'Europe de l'Est.
Vladimir Poutine essaye toujours de faire durer des négociations sur des semaines et des semaines. À chaque fois que les Américains ont proposé quelque chose, les Russes ont répondu par autre chose. Il est aussi probablement expert pour négocier des accords extrêmement compliqués, quasiment impossibles à mettre en œuvre. Il n'y a aucune surprise dans cette posture de la part des Russes. Et malheureusement, Donald Trump a, on va dire, un peu foncé droit dans le panneau.
Au risque, selon Ulrich Bouna, que Donald Trump se lasse des tergiversations de la Russie et se désengage du dossier ukrainien.
Des frappes russes ont fait 3 morts et au moins 28 blessés cette nuit dans l'est de l'Ukraine. Pas de piste privilégiée pour l'instant dans les attaques des prisons françaises, c'est ce que dit le procureur antiterroriste. La nuit a été plutôt calme pour la première fois depuis dimanche et la multiplication des attaques. Le préfet de police de Paris avait renforcé la vigilance autour des 27 prisons d'Île-de-France, par exemple. Emmanuel Macron assure que les auteurs des attaques seront retrouvés, jugés, punis. En attendant, les surveillants ont la peur au ventre. Clément Lopez est le secrétaire FO Justice à la prison d'Avignon-le-Pontet. Il est en contact avec ses collègues d'Aix-Luynes, Metz et de Toulon, lourdement visés ces derniers jours, et il craint pour leur sécurité.
J'ai encore en tête les mots de la collègue de Toulon qui me disait je n'avais plus de nouvelles de la collègue qui était au niveau de la porte en bas. Je me suis dit, elle a été exécutée. Maintenant, ça va être mon tour. Et c'est terrible de se dire ça. Là, on voit certains collègues apeurés avant de prendre leur service qui s'inquiètent. Du coup, on essaye de faire en sorte que chacun ne sombre pas dans la panique. Mais comment dire à nos collègues en même temps de faire attention quand ils font juste leur travail? Comment dire à nos collègues de lever la patte alors qu'au final, c'est juste les missions et les choses qu'on nous demande quotidiennement? En fait, on n'a pas encore les moyens financiers ni personnel de pouvoir lutter correctement pour la sécurité des agents. Si on ne trouve pas des solutions rapidement, tôt ou tard, il y aurait un mort.
Clément Lopez répondait à Charles Ducrot. J'ai dit Aix-Luynes, c'est Aix-Luynes, bien évidemment. Deux Français figurent parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde, choisies par Time Magazine. Gisèle Pélicot, symbole du courage quand le procès des viols de Mazan a ému le monde entier l'an dernier. Et puis Léon Marchand, quadruple champion olympique dans la piscine de Paris 2024.
Et vous êtes dans le top 3 des personnalités de l'actualité, ma chère Virginie Fulpin. Merci beaucoup. À suivre l'édito politique de Guillaume Tabar. Avant cela, le jeudi, c'est librairie. Évidemment, Marc Lambron et sa prescription littéraire. Bonjour Marc.
Bonjour.
Alors au programme ce matin, Sylvia d'Emmanuel Berle.
Oui, alors j'ai eu envie d'évoquer cette semaine un classique un peu méconnu du XXe siècle, Sylvia d'Emmanuel Berle. Berle était né en 1892, il meurt en 1976. C'est un témoin capital de la vie intellectuelle et politique de son temps. Il a été directeur avant-guerre de l'hebdomadaire Marianne. Il est historien, essayiste, ami de Malraux et d'Albert Camus. Époux de la chanteuse Mireille, vous savez, le petit conservatoire de la chanson, et mémorialiste inspiré avec des livres tels que Présence des morts ou Rachel et autres grâces, que je recommande au passage. Mais Sylvia, qui a paru en 1952, est à mon goût le plus beau.
Alors, qui est donc cette Sylvia, Marc?
C'est à la fois une femme et le chiffre d'une existence, qu'il a résumé dans l'Incipit, dans la première phrase de son livre, « Ma vie ne ressemble pas à ma vie ». Elle ne lui a jamais ressemblé. Donc en 1913, le jeune Berle croise à Évian une jeune fille dont il s'éprend follement. Elle ne sera jamais sa maîtresse, alors qu'elle le fut de son ami de La Rochelle. Mais ses réapparitions dans la vie de Berle, avant et après la guerre, vont symboliser les occasions perdues, l'énigme de la grâce et au fond le mystère d'une vie humaine.
À qui recommander la lecture?
Alors Sylvia, c'est une étoile de la constellation proustienne, parce que Berle a fréquenté Proust, et se sont d'ailleurs fâchés autour de leur conception de l'amour. Elle était pessimiste chez Proust, elle était plus espérante chez Berle. Pour moi, c'est un des plus beaux livres de la mémoire française, plein d'une mélancolie intelligente, et qu'on peut mettre en contrepoint avec les entretiens que Berle a réalisés à la fin de sa vie avec Patrick Modiano, sous le titre « Interrogatoire », qui est comme un complément à cette autobiographie perplexe et rêveuse, Sylvia, qu'il a tramée autour du souvenir d'une jeune fille.
Sylvia d'Emmanuel Berle, c'est aux éditions Gallimard, la collection L'Imaginaire. Merci beaucoup Marc Lambron.
Merci, à la semaine prochaine.
Et dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar, le bras de fer entre Paris et Alger. C'est dans un instant, 8h08 sur Radio Classique.
Occasion. En ce moment, Toyota Occasion passe sa garantie de 3 à 6 ans.
En ce moment, Toyota Occasion passe sa garantie de 3 à 6 ans.
Arrête.
Chute.
En ce moment, pendant les occasions ou jamais, Toyota Occasion double sa garantie. 6 ans au lieu de 3 sur tous les véhicules Toyota, y compris les modèles hybrides.
Toyota Occasion. Offre réservée aux particuliers du 1er avril au 10 mai sur les commandes de véhicules éligibles de moins de 5 ans et dans la limite de 185 000 km. Détail auprès du réseau Toyota participant. Oh, la fatigue. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Carrefour. Quand vous me dites « j'ai prévu 2 paniers pour la chasse aux œufs et je compte bien les remplir », eh bien je vous réponds que pour Pâques, il y a 8 euros offerts en bon d'achat tous les 20 euros d'achat sur tous les chocolats de Pâques, même en promotion. Et c'est dès demain et jusqu'à lundi dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors tablette de chocolat limitée à 3 bons d'achat par foyer valables du 22 avril au 4 mai, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Lors d'une succession, on découvre des objets accumulés pendant toute une vie. Des trésors dont on ignore que faire. C'est là que Maison Philippe entre en scène.
Ils se sont déplacés, ont estimé avec soin chaque bibelot, objet chinois, livre, tableau, sac à main, argenterie, montre, bijoux en or, même cassé. Et ils ont tout débarrassé. Plus de tracas. Maison Philippe a tout pris en charge et a payé comptant.
Contactez Maison Philippe Antiquité Raspail au 06 07 58 23 23. 106 boulevard Raspail, Paris 6e, métro Notre-Dame-des-Champs.
Bonjour, c'est Alain Duo. Boston, New York, la Nouvelle-Écosse. Cet automne, je vous attends avec Radio Classique sur un yacht Ponant raffiné pour une croisière de rêve. Avec la grande Shani Di Luca et John Gadd au piano, le prodige du violon Luca Faolisi, Christian-Pierre Lamarca au violoncelle, la clarinette star de Pierre Génisson, la trompette feu de Lucienne Renaud-Davary et en option la comédie musicale Chicago au cœur de Broadway.
Réservez dès maintenant votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
Pour le paiement de votre facture, soyez rassurés, Monsieur Martin, nous avons amélioré nos process. Désormais, les factures sont enregistrées en Pologne, contrôlées en Slovaquie, validées en Irlande et bien entendu réglées par la France. Alors vous voyez...
Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2024, le cabinet Arc a réalisé 1,2 milliard d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 0707. 01 46 03 0707.
Alors, where is Brian? Où est Brian? Brian in the USA. Brian était aux USA. Where is Jenny? Ben oui, elle est où, Jenny?
Il va falloir réviser votre anglais. En ce moment, avec les essais 100% électriques Ford, tentez de gagner 5 voyages à la découverte de l'Ouest américain. Inscrivez-vous sur Ford.fr.
Ah bah, tous les coups, elle est aux États-Unis. Hey Brian.
Ford. Jeu valable du 15 mars au 30 juin 2025. Règlements et conditions sur Ford.fr, gratuit sans obligation d'achat. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Dans 30 secondes, l'édito politique de Guillaume Tabar sur Radio Classique.
Mais c'est votre canapé qui fait ce bruit.
Vous méritez mieux. Vous méritez un nouveau poltronné sofa. Avec 30% de remise sur beaucoup de canapés comme en exposition.
Ah là, on entend quel confort. Poltronné sofa, 30 ans de qualité.
Et voilà.
30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et à 8h12, l'édito politique de Guillaume Tabar du journal Le Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour Marc.
En réponse à l'expulsion de 12 Français travaillant à l'ambassade d'Algérie, Emmanuel Macron a décidé d'expulser à son tour 12 ressortissants algériens et de rappeler notre ambassadeur. Est-ce un changement d'attitude de la part du président français, Guillaume? Ah,
clairement oui, hein. Oui. Jusqu'à présent, Emmanuel Macron se voulait fidèle à son fameux « en même temps » entre la ligne de fermeté incarnée par son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et la ligne de dialogue porté par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Un homme de droite d'un côté, un centriste de l'autre, bras de fer contre main tendue, les sécuritaires contre les diplos, répartition des rôles classiques. Mais sur cette crise avec l'Algérie, s'il s'était bien gardé de critiquer publiquement son ministre de l'Intérieur, le chef de l'État avait clairement affiché sa volonté de rétablir rapidement le dialogue entre nos deux pays. Ce fut le coup de téléphone du 31 mars avec son homologue Abdelmadjid Tebboune et la visite sur place de Jean-Noël Barrot. Mais l'expulsion de 12 Français, à peine une semaine après cette visite du patron du Quai d'Orsay, a été un pied de nez fait en réponse à ces gestes d'ouverture. Une véritable humiliation pour Macron qui, dès lors, n'avait plus d'autre solution que de revenir à la manière forte, ce qu'il a fait donc en expulsant à son tour 12 Algériens.
Cette escalade ne risque-t-elle pas, Guillaume, de réduire à néant tous les efforts d'apaisement entrepris par la France?
Tout dépend en fait de la priorité que l'on se donne. Dans cette crise, en fait, il y a deux impératifs. Un, obtenir au plus vite la libération de Boualem Sansal, et deux, obtenir au plus vite également la reprise par l'Algérie de ses ressortissants sous OQTF, c'est-à-dire ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion. Alors, on peut dire que pour atteindre ces deux objectifs, il faut user de la voie diplomatique, donc qu'il faut du dialogue, et c'est vrai, hein, puisqu'il faut obtenir d'Alger la délivrance de laissez-passer consulaires. Mais il ne faut quand même pas inverser l'ordre des choses. Le dialogue, l'apaisement, ne sont que des moyens pour débloquer la situation. Ils ne sont pas une fin en soi, dont la libération de Sansal et la reprise des OQTF ne serait qu'une sorte de variable d'ajustement.
Mais le regain de tension fera-t-il pour autant plier Alger ?
Ça, rien n'est moins sûr en effet, mais ce qui est sûr, c'est que, contrairement à ceux qui disaient que c'était le ton martial de Retailleau qui bloquait la situation, reprenant d'ailleurs au passage exactement le discours des autorités algériennes, la logique consistant à dire « commençons déjà par faire des gestes d'ouverture envers le régime algérien », eh bien, cette logique, on le voit, n'a mené à rien. Alors, dans un premier temps, on peut peut-être s'attendre à un durcissement supplémentaire de Tebboune et de ses amis, mais si la France assume de tenir vraiment une ligne de fermeté, Alger sera peut-être bien obligé de respecter enfin et ses engagements internationaux et de libérer Sansal.
L'édito politique de Guillaume Tabar du journal Le Figaro. Merci Guillaume.
À demain.
Et à demain, 8h15, tout de suite l'invité de la matinale de Radio Classique. Bonjour Frédéric Ploquin.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes écrivain, journaliste d'investigation, spécialiste police, grand banditisme, renseignement intérieur. Des tirs de Kalachnikov, des incendies de voitures, des menaces depuis dimanche contre les prisons et leurs surveillants. La nuit dernière a été rythmée par les patrouilles de police devant ces établissements pénitentiaires avec toujours cette question. Qui se cache derrière ces actes et cette chaîne Telegram DDPF, défense des droits des prisonniers français? Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête dès mardi, aucune piste privilégiée, dit-il encore ce matin. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, pointe clairement le narcotrafic. Est-ce que vous trouvez cela précipité ?
Écoutez, il n'aura pas complètement tort, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sont les décisions prises par le ministre de la Justice concernant l'incarcération des narcotrafiquants qui suscitent et qui ont entraîné cette mobilisation. C'est la décision notamment de créer deux ou trois prisons ultra sécurisées, c'est la décision de priver de téléphone un certain nombre de trafiquants qui continuaient à gérer leurs affaires, on va dire, depuis leur cellule. C'est de toute façon cela qui entraîne ce mouvement. Après, qui est derrière ? C'est vrai qu'à première vue, moi, j'aurais presque trouvé plus rassurant que ça vienne d'une organisation politique. Parce que ça en avait tout l'air. Et si ce sont les narcotrafiquants qui sont à l'œuvre, ils sont relativement intelligents parce qu'ils nous ont leurrés dans la mesure où, en créant cette espèce de pseudo-organisation, en revendiquant comme ils l'ont fait, en filmant leurs actions pour que ce soit relayé et su, ils signeraient là, si c'était vraiment eux qui étaient à l'origine de ces attaques, ils signeraient une véritable opération coordonnée sur le plan national qui démontrerait une forme de toute puissance. C'est pour ça que je vous dis qu'on aurait presque préféré, même si a priori je pense que ça n'aurait pas échappé aux services de renseignement, on aurait presque préféré un remake de ce qu'on a vécu dans les années 1970-80, où on avait vu une espèce de campagne très politique contre les quartiers de haute sécurité, alliant d'un côté des grands voyous avec un Jacques Mérine à sa tête, et de l'autre côté l'extrême gauche, et notamment, je me souviens, le journal Libération, qui était très en pointe contre ce combat-là. On aurait presque préféré retrouver ça, qui était un classique. Si ce n'est pas le cas, et si on a affaire à une opération coordonnée de narco-banditisme, alors là, oui, on franchit une nouvelle étape en France aujourd'hui, parce que précisément, ce qui vous frappe, ce qui me frappe, c'est la coordination. Ouais, c'est le fait que les révoltes dans les prisons, en général, c'est très localisé. C'est vous avez une révolte à la prison de Saint-Maur, vous avez une révolte à Châteauroux, ça se passe à l'intérieur. Et là, on est dans une nouvelle forme, puisque ça se passe à l'extérieur, avec une mise en danger, non pas dans la coursive des surveillants, mais partout où ils se trouvent, à l'extérieur, quand ils rentrent chez eux, quand ils vont faire leurs courses au supermarché. Et c'est là où je dis, on franchit un cap dans la pression, l'immense pression qui est mise sur les agents de l'administration pénitentiaire.
Avec cette dimension-là, pour reparler justement du narcotrafic, ça signifierait que des gangs ennemis, par exemple, se seraient alliés pour faire front commun? On peut imaginer ça carrément?
C'est là où au début, intellectuellement, on a du mal à l'admettre. Parce que si vous voulez, on a quand même. Ce sont des, Ce sont des organisations criminelles ultra concurrentes, ultra concurrentielles, qui passent leur temps à s'entretuer, qui sont autonomes les unes des autres, qui, on va dire, au niveau des valeurs, sont plutôt dans, voilà, moi je gère ma boutique, mon business et je partage pas. Et puis si tu me, voilà, on est plutôt dans ça, on va dire, avec des individus hyper concentrés sur leurs propres intérêts immédiats. Et pas du tout dans la prospective ni dans l'organisation. Donc là, on aurait une espèce de la naissance d'une espèce de si c'était le cas, hein, parce que je reste encore prudent
évidemment,
à ce stade,
ouais.
On aurait la naissance d'une espèce de cartel capable de s'organiser d'un bout à l'autre de la France pour du jour au lendemain dire bon au ministre de la Justice, ça suffit, on veut pas de tes prisons. Je veux dire autrefois. Autrefois, c'était pas comme ça. Je veux dire, le détenu à qui qu'on privait de douche parce qu'il s'était mal comporté ou à qui on restreignait un peu la liberté, bon bah il tambourinait à la porte. Au pire, c'est vrai que ça c'est arrivé. Il cassait la figure d'un surveillant dans les coursives. Aujourd'hui, c'est en gros, on serait arrivé à ça. C'est tu me prives de douche, je m'en prends à ta voiture, je fais brûler ta voiture. Tu veux pas me faire rentrer un téléphone, pardonnez-moi, je tutoie, mais c'est comme ça qu'ils le font. Mmh. Tu veux pas me faire rentrer un téléphone portable dans la prison, bah tu vas voir, tu vas être en danger partout. Ça me rappelle un peu, vous savez ce qu'ont vécu les policiers durant la grande vague récente de terrorisme, où tout d'un coup ils étaient attaqués jusque chez eux, ils étaient attaqués parce qu'ils portaient l'uniforme, ils étaient attaqués partout dans la rue, et ils ont été autorisés, je le rappelle, à circuler avec des armes. Là, ils sont en situation de faiblesse, les surveillants. Et les narcotrafiquants le savent très bien, ils n'ont pas d'arme à feu, ils se baladent pas avec une arme à feu. Et dans les dossiers, par ailleurs, dans les dossiers qui les mènent en prison, apparaissent souvent, notamment dans les affaires disciplinaires, les noms des surveillants qui sont en face d'eux et qui les condamnent au mitard. Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'accès comme ça à la vie privée. Et puis la prison, c'est un huis clos finalement. C'est un huis clos, vous savez, c'est pas comme une garde à vue au commissariat où vous avez la cage, vous avez les barreaux. Dans la prison, vous êtes face à face. Vous pouvez toucher l'autre, vous voyez ce que je veux dire,
oui,
c'est un métier extrêmement compliqué d'agent, vous êtes très 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 proche, et donc vous êtes accessible aux pressions.
Des agents pénitentiaires donc pris pour cible désormais, ils ont été filmés, hein, certaines vidéos ont été diffusées sur ce canal Telegram, ces attaques elles interviennent dans un climat, vous avez déjà commencé à en parler, hein, mais un climat chaotique pour la profession et pour les prisons d'ailleurs françaises.
Oui, bah écoutez, les surveillants savent pas très bien comment ça va se passer, mais le ministre de la Justice a promis aux trafiquants de stupéfiants donc une espèce de la création d'au moins deux prisons pour l'instant qui seraient des super prisons complètement sous cloche.
Avant d'aller au Vieil et Condé-sur-Sarthe.
Rien, voilà, exactement, et où ne rentrerait strictement aucun téléphone portable, aucune espèce de barrette de shit, aucun gramme de cocaïne, etc. Ils savent très bien que ça va être très 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 difficile, que la pression va être extrêmement importante. Et vous imaginez, si aujourd'hui on est encore dans le si, vous avez des trafiquants capables de s'organiser d'un bout à l'autre de la France, vous imaginez si vous mettez les 100 plus gros trafiquants et plus riches de ce fait, trafiquants de stupéfiants dans un même établissement, quel poids économique, quelle puissance ils vont concentrer, et quel poids, quand je dis quel poids économique, c'est quelle force de corruption ils vont le représenter, de corruption et... Parce que là, si ça s'avère être le cas, en gros, on aurait des puissants caïds qui, de l'intérieur des prisons, auraient commandité des petites mains, non plus cette fois pour aller commettre des exécutions et des règlements de compte, ce qu'on a vu quand même avec la DZ Mafia à Marseille, mais pour aller s'attaquer aux surveillants. C'est un peu le même principe, en fait.
Hein. Ce que vous dites, Frédéric Ploquin, ce que vous dites, c'est qu'à Vendin-le-Vieil, par exemple, l'établissement haute sécurité qui doit ouvrir d'ici l'été, on peut redouter des attaques de cette ampleur.
Écoutez, on va pas avoir le temps, vu la vitesse avec laquelle ça va, et d'ailleurs c'est ce qui déplaît apparemment aux trafiquants, mais vu la vitesse à laquelle ça va, l'administration va pas avoir le temps de former les fonctionnaires, les agents de la pénitentiaire. Mmh. Il va falloir quand même les préparer à ce que ce soit extrêmement dur. Je pense que ils vont se retrouver en permanence dans ces établissements avec une tenue de Robocop, comme ça arrive parfois, et pas du tout avec la tenue traditionnelle. qu'ils vont être sans arrêt sur leur garde et qu'ils vont leur mener, les détenus vont leur mener aux surveillants une vie d'enfer. Ça me paraît clair. Donc il va falloir trouver des volontaires pour aller là-bas, dans ces prisons. Il va falloir.
Et il y en a aujourd'hui, des volontaires.
Oui, il y en a qui veulent y aller, mais il va falloir aussi les payer.
Oui.
Il va falloir aussi les payer. Peut-être un peu plus que les autres. Je pense que très vite on va avoir des revendications de ce type-là, parce que
oui.
Bon voilà, non, parce que ça va pas être déjà que c'est pas un travail de tout repos, c'est un travail compliqué. Je veux dire, vous vivez quand vous êtes agent de la pénitentiaire, vous vivez encore plus longtemps que vous vivez, passez toute votre vie en prison finalement. Donc c'est dans cet univers. Donc il faut des respirations. Là ça va être une cocotte minute, j'ai envie de dire, ces établissements, si on part de l'idée qu'aujourd'hui vous savez, il y a pas que les agents d'ailleurs. C'est ça qui nous fait penser que c'est peut-être la bonne piste, c'est que ce qu'on voit depuis quelques semaines, c'est quelques mois, c'est qu'il y a des menaces qui sont proférées dans les bureaux des palais de justice contre des juges, contre des greffiers, des menaces ou des approches de policiers également, de douaniers.
Qui pourraient se retrouver visés par ce type d'attaque.
Il y a des magistrats aujourd'hui protégés en France, à cause des menaces qui ont été dans le huis clos du bureau du tribunal. Il y a des agents de la pénitentiaire qui ont été clairement, notamment, il y a un cas à Marseille assez récent, où on a deux caïds de la DZ Mafia, ce qu'on appelle la DZ Mafia, c'est-à-dire cette espèce d'organisation, cette nébuleuse marseillaise, qui ont été mis un peu sous surveillance très 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 rapprochée au Baumette, dans cet établissement, avec des conditions drastiques du jour au lendemain, pour éviter justement qu'ils ne commanditent des règlement de compte depuis la prison, et ils se sont passés tout de suite à l'offensive, à l'attaque, c'est-à-dire qu'ils ont commandité des jeunes pour aller s'en prendre directement, peut-être même physiquement, puisqu'ils étaient armés, au directeur de la détention qui avait pris cette décision et qui encadrait à ce moment-là ces restrictions. Donc vous voyez bien que ces agents vont être très très vite en danger. Ils le sont déjà.
Merci Frédéric Ploquin, écrivain, journaliste d'investigation. Je précise que vous êtes aussi l'auteur du livre Braqueur, mercenaire, aventurier de l'OAS au grand banditisme. C'est paru aux éditions du Nouveau Monde. Bonne journée Frédéric Ploquin.
Bonne journée à vous. À bientôt.
8h26 sur Radio Classique. Dans un instant, Esprit Libre, nous sommes jeudi. Nous accueillons le journaliste François-Olivier Gisbert juste après la revue de presse d'Augustin Lefebvre.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
Mano Mano. Regardez son jardin en friche. Allez sur Mano Mano, chercher une tondeuse, trouver la Makita sans fil à seulement 135 euros, se faire livrer rapidement, passer son samedi au grand air. Vous savez tout. En avril, les prix bas jardin sont chez Mano Mano.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Mano Mano. Offre soumise à condition, voir détails sur manomano.fr.
Vous trouvez que le temps passe vite? Nous aussi. Alors chez Mazda, nous vous offrons jusqu'à 5 ans d'entretien et 5 ans d'assistance sur nos berlines SUV Compact 9 Mazda 3 et CX-30. Et pour toujours plus de sérénité, nous garantissons tous nos modèles 6 ans. Prenez juste le temps de découvrir notre gamme chez votre concessionnaire Mazda le plus proche. Le moment est venu de rouler l'esprit tranquille. Garantie 6 ans, limitée à 150 000 km. Offre valable en location longue durée à particulier jusqu'au 30 juin. Pensez à covoiturer.
Radio Classique et la Salgavo présentent Ravel ou le voyage imaginaire. En compagnie de Franck Ferrand et du pianiste Jean-Frédéric Neuburger, venez vivre entre récits et musique toute la féerie et l'émotion envoûtante de l'univers de Maurice Ravel. Ravel ou le voyage imaginaire. Avec Franck Ferrand et Jean-Frédéric Neuburger, un concert Radio Classique, mercredi 4 juin, Salle Gaveau, à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur salgaveau.com.
Le plus grand événement des solutions pour la planète arrive à Paris. Change Now transforme le Grand Palais en exposition universelle des solutions durables. 3 jours de conférences, de rencontres inspirantes et 1000 innovations à découvrir. Le samedi, job fair, atelier famille, fresques et art pour tous. Entrez dans un monde durable à Change Now du 24 au 26 avril. Informations et réservations sur changenow.world.
Françoise, donatrice à la Fondation du patrimoine.
Notre patrimoine est en danger. Nos églises, nos petits théâtres, nos moulins, nos lavoirs disparaissent de nos paysages. Alors pour que nos enfants connaissent ces merveilles, j'ai fait un legs à la Fondation du patrimoine. J'aide ainsi son réseau de bénévoles, partout en France, à sauver cet héritage, témoin de notre histoire.
Contactez la Fondation du patrimoine au 09 80 80 99 98 ou sur fondation-patrimoine.org.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Chaque jour dans la matinale de Radio Classique, retrouvez comment j'ai réussi à 6h15 avec Natran. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et Charles Bonner pour le rappel des titres à 8h30.
Les discussions sur un cessez-le-feu en Ukraine à Paris aujourd'hui avec deux diplomates américains reçus à l'Elysée, dont le principal, le secrétaire d'État Marco Rubio. Son premier déplacement en France alors que les négociations avec la Russie traînent et n'ont pas encore abouti à une trêve. Aucune piste n'est privilégiée selon le procureur antiterroriste dans les attaques qui visent les prisons depuis plusieurs jours. Des tags, des incendies sans revendication claire, seulement des référence à un groupe inconnu de défense de prisonniers. La piste du narco-banditisme est envisagée. Et puis une grève illimitée des médecins et des internes, un appel à partir du 28 avril. Manière de s'opposer à une proposition de loi qui prévoit de réguler l'installation des médecins. Article approuvé par l'Assemblée nationale, mais l'examen du texte doit reprendre début mai.
Merci Charles. 8h31, ouvrons le kiosque de Radio Classique. Bonjour Augustin Lefebvre.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
À la une ce matin dans la presse, la Russie racontée par les Russes.
Oui, c'est la couverture et le dossier de Courrier International cette semaine. L'hebdomadaire publie notamment un long reportage écrit par des journalistes en exil ou obligés de travailler sous pseudonyme. Il permet de découvrir le quotidien dans la ville d'Irkoutsk, à plus de 4000 km à l'est de Moscou. Irkoutsk, où ce n'est ni vraiment la guerre, ni tout à fait la paix. Environ 300 soldats originaires de la cité sont morts en Ukraine. Cette guerre était très loin de nous avant que la ville ne commence à déplorer des victimes, témoigne une juriste dont le voisin est sur la liste. Il est parti en Ukraine en disant « Je ne sais pas ce que je vais faire là-bas, mais au moins je vais gagner de l'argent ». Il n'est pas resté longtemps, il a été tué peu de temps après son arrivée. Une autre femme pleure la mort de son fils dont le corps n'a pas été retrouvé. Elle craint qu'il soit déclaré déserteur, ce qui éviterait à l'État de lui verser une pension. L'article raconte les différentes positions de la population, les patriotes d'un côté, de l'autre, ceux qui critiquent la guerre. Et puis il y a tous ceux qui sont indifférents, trop préoccupés par les soucis du quotidien, comme Olga, quadragénaire, insultée sur les réseaux sociaux par les opposants au régime, mais aussi par les vatniks, terme péjoratif pour désigner les élateurs de Vladimir Poutine. Les relations sociales se tendent. Angela, installée en Allemagne, ne parle plus à son père depuis qu'il a affirmé il y a longtemps que la Russie aurait dû prendre un morceau de l'Ukraine. Quand elle retourne à Irkoutsk, elle se désole de ne plus savoir avec qui aller boire un verre. Natalia, elle, a refusé de se lever après un chant à la gloire de Poutine lors d'un concert. Ma tante m'a dit « Lève-toi pour applaudir, sinon ils vont t'arrêter ». Je lui ai répondu que je ne me lèverai pas. Et le journal de décrire comment la tante en question aide une association de soutien à la guerre, malgré son opposition, par crainte d'être considérée comme une ennemie.
Et de nouvelles catégories apparaissent dans la population, Augustin.
Oui, car Vladimir Poutine entend faire des vétérans la nouvelle élite du pays. Il a lancé un programme de formation pour que les soldats de retour du front puissent travailler dans des administrations ou des entreprises. Avec un exemple, un militaire qui a participé aux combats en Syrie et en Ukraine, devenu sénateur à 30 ans. L'objectif est d'éviter un syndrome afghan, c'est-à-dire la recrudescence de criminalité liée au stress post-traumatique des soldats soviétiques de retour d'Afghanistan. Mais selon un sondage, seuls 2% de la population russe est convaincue que les militaires incarnent la nouvelle élite du pays. Ainsi, à Irkoutsk, c'est une dame bon chic bon genre qui s'adresse au bas de son immeuble à un vétéran alcoolisé ayant perdu ses jambes. « Mon garçon, tu es un héros, mais ne viens plus nous voir en fauteuil roulant. Que Dieu t'éloigne de chez nous. » On ne l'a plus jamais revu. Autre catégorie, autre fracture, celle des exilés. Il serait environ 700 000 à avoir fui la Russie pour éviter la mobilisation. Un journaliste, relayé par Courrier International, dresse le constat d'un clivage à l'outrance. Ceux qui sont partis se réjouissent des malheurs signalés en Russie. En Russie, chaque déconvenu rencontré par un reloquante, néologisme désignant un émigré parti après le début de la guerre, inspire une joie mauvaise.
Le cahier littéraire du Figaro consacre lui un dossier aux écrivains russes contemporains qui ont choisi l'exil.
Avec une grande photo de Ludmila Ulitskaya. Bras croisés, cheveux courts, poivre et sel. À 82 ans, elle vit en Allemagne depuis avril 2022. « Je ne souffre pas particulièrement de l'exil », déclare-t-elle au journal. « C'est presque une tradition russe depuis Gogol et Dostoïevski. Il est l'expression de l'affrontement des écrivains avec le pouvoir. » Suite un portrait de cette opposante au Kremlin ainsi conclu, après l'échelle de Jacob, un récit autobiographique qui retrace la saga de sa famille sur 4 générations, elle songe à un dernier roman consacré à l'exil des Russes, puis à leur retour dans la patrie. Mais à quelles conditions ce retour? Avec quel régime? Eh bien, il faudra attendre cet ouvrage pour le savoir. Autre auteur présenté par le Figaro, Vassili Zorki, né plus de 40 ans après Ludmila Ulitskaya. Il a fait escale à Vilnius, puis à Berlin, et vit maintenant à Paris. Dans chacune de ces villes, on lui pose la même question. Pourquoi n'avez-vous pas tenté de renverser Poutine? Il tente d'y répondre dans son récit La roue du diable. Il y raconte son adolescence dans une famille moscovite, défenseuse des droits de l'homme et amatrice de culture européenne. Mais être fan d'Antoine Doinel ne prépare pas forcément à se dresser contre les tyrans. Au début des années 2000, quand Poutine devient président, il se rappelle que les gens se fichaient de la politique. Chacun souhaitait s'occuper de ses affaires et gagner de l'argent. En 2012, Vassili Zorki fait partie des manifestants qui contestent les résultats des élections. Mais parmi nous, personne n'était prêt à une véritable révolution. 90% de ceux qui constituaient la jeunesse dorée se sont révélés complices déclarés ou silencieux des massacres d'aujourd'hui.
Pendant que la société russe se déchire et essaye d'analyser son histoire par la littérature, la diplomatie américaine continue à tenter de négocier un accord de paix.
Oui, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, est en visite à Paris aujourd'hui pour parler de l'Ukraine. Mais dans un article publié sur son site, Le Monde rappelle ce matin que les Européens sont hors jeu malgré leur bonne volonté. L'enchaînement de sommets et réunions à tous les niveaux entre les alliés occidentaux de Kiev ressemble de plus en plus à un long couloir sans fin. La cause majeure de cette paralysie est connue, l'absence totale de visibilité sur les discussions entre Moscou et Washington dont il demeure exclu, au risque de placer l'ensemble de ses soutiens de l'Ukraine dans un périlleux exercice de diplomatie fiction. Cette paralysie a d'autres causes. Exemple, l'envoi d'une force européenne de maintien de la paix en cas d'éventuel cessez-le-feu. Rien que sur le principe, on en est loin. Mais Le Quotidien écrit que les états-majors français et britanniques ne sont pas alignés. Les Français sont plus favorables à une option terrestre. Les Britanniques, de leur côté, préféreraient un scénario moins frontal, mêlant moyens aériens et navals, alors que leur armée de terre dispose d'effectifs très limités. S'ajoutent des questions budgétaires importantes et des interrogations sur l'investissement des États-Unis. Bref, on est encore loin de la paix, du retour des exilés en Russie et de la concorde sociale à Irkoutsk et dans toutes les autres villes du pays.
La revue de presse d'Augustin Lefebvre à réécouter sur l'application Radio Classique. Bonne journée Augustin et à demain. 8h37, dans un instant, Esprit Libre, le journaliste François-Olivier Gisbert nous rejoint en studio. À tout de suite.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Du lundi au vendredi, dans la matinale de Radio Classique, Natran vous présente le journal de l'écho à 6h47. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Toyota Occasion.
En ce moment, Toyota Occasion passe sa garantie de 3 à 6 ans.
En ce moment, Toyota Occasion passe sa garantie de 3 à 6 ans.
Arrête.
Chut.
En ce moment, pendant les occasions ou jamais, Toyota Occasion double sa garantie. 6 ans au lieu de 3 sur tous les véhicules Toyota, y compris les modèles hybrides.
Toyota Occasion.
Offre réservée aux particuliers du 1er avril au 10 mai sur les commandes de véhicules éligibles de moins de 5 ans et dans la limite de 185 000 km. Détail auprès du réseau Toyota participant. Oh, la fatigue. Pensez à covoiturer.
Vous en avez assez de dire non à votre enfant? J'ai la solution. Dites-lui oui. Oui à tout. Oui, mon amour. Tu peux choisir l'atelier peinture, dessin ou éveil musical. Oui, vas-y. Fais de la mosaïque, de l'aquarelle ou même du modelage. Oui. Et oui, pendant les vacances, c'est l'opération Vive les couleurs chez Cultura, avec 20 000 ateliers gratuits pour éveiller vos enfants à l'art et à la culture. Inscrivez-vous dès maintenant sur cultura.com. Offre réservée aux membres Cultura Addict, voire conditions en magasin et sur cultura.com. Cultura, la culture avec un grand A.
Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
Votre facture, monsieur Martin, mais elle est bloquée par notre logiciel. Bah oui, vous avez bien pensé à mentionner les 17 chiffres des numéros de commande, mais vous avez oublié la lettre C. Bah oui, monsieur Martin, C comme commande, forcément.
Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2024, le cabinet Arc a réalisé 1,2 milliard d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 0707. 01 46 03 0707.
Alors, where is Brian? Où est Brian? Brian in the USA? Brian était aux USA. Where is Jenny? Ben oui, elle est où, Jenny?
Il va falloir réviser votre anglais. En ce moment, avec les essais 100% électriques Ford, tentez de gagner 5 voyages à la découverte de l'Ouest américain. Inscrivez-vous sur Ford.fr.
Ah ben, tous les coups, elle est aux États-Unis. Et Brian!
Ford. Jeu valable du 15 mars au 30 juin 2025. Règlements et conditions sur Ford.fr, gratuit sans obligation d'achat. Pensez à covoiturer.
Carrefour. Quand vous me dites « j'ai prévu deux paniers pour la chasse aux œufs et je compte bien les remplir », eh bien je vous réponds que pour Pâques, il y a 8 euros offerts en bon d'achat tous les 20 euros d'achat sur tous les chocolats de Pâques, même en promotion. Et c'est dès demain et jusqu'à lundi dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors tablette de chocolat limitée à 3 bons d'achat par foyer valables du 22 avril au 4 mai, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Aujourd'hui, Sylviane a le sentiment du devoir accompli. À 78 ans, elle vient de donner un coup de pouce financier à ses petits-enfants. Mais surtout, Sylviane a fait une donation à la Fondation Foch. Elle aide ainsi 300 médecins et chercheurs de l'hôpital Foch à combattre la maladie et soutient une médecine d'excellence au service de tous. Legs, donation, assurance vie, comme Sylviane, soutenez l'hôpital Foch. Appelez le 01 46 25 27 74 ou connectez-vous sur fondation-foch.com.
Vous trouvez que le temps passe vite ? Nous aussi. Alors chez Mazda, nous vous offrons jusqu'à 5 ans d'entretien et 5 ans d'assistance sur nos berlines SUV compact 9 Mazda 3 et CX-30. Et pour toujours plus de sérénité, nous garantissons tous nos modèles 6 ans. Prenez juste le temps de découvrir notre gamme chez votre concessionnaire Mazda le plus proche. Le moment est venu de rouler l'esprit tranquille. Garantie 6 ans limitée à 150 000 km. Offre valable en location longue durée à particulier jusqu'au 30 juin. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Les ETI sont essentiels dans la transformation durable de nos vies. Comment ? Réponse avec Grâce à nos ETI, chaque mardi à 7h29 avec Fabrice Lundy sur Radio Classique. Un programme proposé par KPMG, cabinet leader de l'audit et du conseil en France, engagé à agir pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
8h41, Esprit Libre sur Radio Classique. Avec nous ce matin, le journaliste et éditorialiste Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Franz.
Bonjour Marc.
Un homme en colère ce matin. Alors ce n'est pas vous, c'est Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes. Il a menacé de ne plus certifier le budget de l'État. C'est ce qu'il a annoncé devant l'Assemblée nationale en commission.
Oui, comme vous dites, moi ce serait normal, je le suis souvent en colère. Oui, bon. Mais Pierre Moscovici, lui, c'est un homme très posé. C'est monsieur calme, comme il y a, vous savez, des messieurs propres. Oui. Eh ben, là, il a carrément pété les plombs à propos des comptes publics de 2024. La raison de son courroux, hein, du président de la Cour des comptes, c'est que pour la 19e fois consécutive, c'est un chiffre fou, eh ben, la Cour des comptes n'a pu certifier les comptes de 2024 sans réserve significative. Hein. C'est-à-dire, cette année, il relève 5 grosses anomalies et puis 11 insuffisances d'éléments probants. Et tout ça, ça joue, dit-il, sur des dizaines de milliards de différences. Mmh. Non, mais c'est
gigantesque.
Enfin, ouais. C'est la preuve que l'administration a refusé d'appliquer les normes comptables communément acceptées. Ça, je le cite, c'est ce qu'il dit. Et c'est preuve aussi, pour dire les choses clairement, qu'elle bidouille les chiffres. Il est révolté qu'elle ne tire jamais les leçons des mises en garde de la Cour des comptes, parce que c'est vrai que c'est un, comment dire, on peut dire que c'est un rite, hein, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Et sur le ton, retenez-moi ou je vais faire un malheur, eh ben, il met le doigt sur un point important. Si nos gouvernants étaient de simples chefs d'entreprise et que les commissaires aux comptes refusaient de certifier les comptes, les dix comptes, eh ben, ça ne passerait pas crème. Hein, et ça fait quand même quelques décennies que ça passe quand même. Ce faisant, il fait le procès, y compris le sien, de tous ceux qui ont gouverné la France depuis les années 1980 et qui, à droite comme à gauche, ont vidé inconsidérément les caisses en pensant que c'est en dépensant plus qu'on ferait de la croissance. Ça ne marche pas. Et ils continuent toujours à dépenser plus. Enfin, plus maintenant avec Bayrou, mais jusqu'à une date récente. Et c'est ainsi que la France bat tous les records aujourd'hui de mauvaise gestion, avec des records de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, 57,1%, un record des prélèvements obligatoires par rapport au PIB encore, 42,8%, et puis, évidemment, un endettement considérable, plus de 3 000 milliards. Et c'est ça, voilà. Moscovici, en fait, il a été in fine, à mon couvert, très sévère envers les deux premiers ministres de 2024, ouais. qui ont fait ce budget, Elisabeth Borne et Gabriel Attal, qui ont mis en fait la poussière sous le tapis, refilé le mistigri ou la patate chaude, comme vous voudrez, à leur successeur, Michel Barnier, puis François Bayrou. Il a aussi rappelé en passant, c'est intéressant, que Bruno Le Maire, le ministre des Finances, dont on a tellement voulu faire un bouc émissaire de la catastrophe financière, avait bien fait de réclamer à l'époque, vous vous souvenez, une loi de finances rectificative.
Oui, on s'en souvient, Bruno Le Maire. Réhabilité, vous diriez ça, Franz?
Bah oui, un petit peu réhabilité. Oui, bien sûr, il l'a été d'ailleurs par la commission d'enquête.
Exactement. Comment peut-on se sortir, ça c'est la grande question aussi, hein, du jour et des mois qui viennent, comment peut-on se sortir de la spirale des déficits et de l'endettement?
Simplement, pour 2025, en faisant 2006. Tout pour rééquilibrer les comptes, c'est absolument l'évidence. Il a ouvert une piste, Pierre Moscovici, et curieusement, ça n'a pas fait scandale. Il a dit, par exemple, entre autres, qu'il fallait gratter non sur les fraudes fiscales, on est allé au bout, dit-il, mais sur les fraudes sociales. Hein. Ça, jusqu'à présent, c'était un tabou. C'était un tabou à gauche. Et il y en a, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un ancien socialiste, il y en a, dit Pierre Moscovici, pour 4,5 milliards. Hein. Et puis, Amélie de Montchalin, elle tente de... qui était la ministre des comptes publics. Oui. Elle tente de faire 40 milliards d'économies et promet de réduire les impôts en récupérant l'argent des niches fiscales qu'elle envisage de supprimer. Il y en a beaucoup, hein, 467 ou 474, ça dépend des
85
sources.
Milliards d'euros,
oui,
chiffrés.
Et oui, absolument, chiffrés à 85 milliards d'euros. Enfin, on ne va pas les supprimer toutes, mais il y a un certain nombre qui pourraient être supprimés, ça rapporterait peut-être quelques milliards, et elle promet de les rendre en baisse d'impôts. Acceptons-en l'augure. Ce qui est sûr, c'est que l'état d'esprit des gouvernants a changé, si l'on en juge par la mine contrite grave de François Bayrou avant-hier, quand il disait que la France ne produit et ne travaille pas assez. Et ça, c'est amusant de voir la réaction d'une partie des médias quand il a dit ça. C'est « la France produit, la France travaille. » Mais non, le taux d'emploi de nos principaux concurrents dans les pays développés, le pourcentage d'emploi parmi les Français, parmi les pays développés, il est de 74%, et chez nous, les Français, il est de 68%. Il y a quand même une grosse différence. Il y a moins de Français qui travaillent en proportion que d'Allemands, d'Italiens, etc. Alors, vous voyez, malgré les apparences, il a au moins des raisons, il y a au moins des raisons d'être optimiste. Et il y a de plus en plus, d'ailleurs, de personnalités, à commencer par le Premier ministre, qui ont, pris la mesure des choses et qui commencent à parler vrai. Alors, maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre au travail. Hein. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Et pour ça, il faudrait une majorité. Donc, ça verra certainement après la dissolution.
C'est pas encore gagné. Comment se sortir d'une autre spirale, Franz, celle qui mène à la rupture entre la France et l'Algérie?
Bon, c'est une affaire qui a été malmenée. Ce qui était bien, là, ces derniers temps, il y avait le good cop et le bad cop, vous savez. Évidemment, le gentil, c'était Emmanuel Macron. Le méchant, c'était Retailleau. Mais ça n'a pas marché. Oui. Et je pense que, l'Algérie, enfin, les dirigeants algériens, parce qu'il faut faire la différence entre l'Algérie et ses dirigeants, bon, ils ont pensé qu'il y avait peut-être encore plus à tirer, toujours d'Emmanuel Macron, qui a très mal commencé, en fait, à discuter avec l'Algérie, déjà avec cette phrase incroyable qui reste, qui est que c'était un crime contre l'humanité. Mmh. Enfin, je pense qu'il avait peut-être oublié que la France n'a pas été le seul colonisateur de l'Algérie. Il aurait regardé les livres d'histoire, il aurait vu que c'est auparavant était, enfin, avait colonisé l'Algérie, les Romains, les Ottomans, les Égyptiens, etc., etc. Bon, enfin, bref. Eh bien, en tout cas, je n'aimerais pas être à la place de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Il paraît que le ridicule tue, mais lui, après les épisodes d'hier, il était toujours bien vivant, mais dans quel état ? Voilà, ce qui manque, je dirais, dans cette affaire depuis le début, c'est une stratégie. Et c'est important, la stratégie, vous savez. Je conseillerais, par exemple, au président de la République de lire ce livre absolument extraordinaire qu'a pas pris une ride. C'est L'art de la guerre de Sun Tzu, général chinois du 6e siècle avant Jésus-Christ. Un livre absolument extraordinaire où il y a cette formule, par exemple. L'art de la guerre, c'est soumettre l'ennemi sans combat. Il y a une autre phrase aussi. Celui qui excelle à résoudre les difficultés les résout avant qu'elles ne surgissent. Hein, bon, voilà. Je pense que dans la discussion, mais dans la négociation, il faut être fort, et puis après, on parle, et puis après, on cède. Vous savez, il y a une formule du président Ronald Reagan, déjà de l'autre siècle, il disait, et ça résumait d'ailleurs bien l'art de la guerre, peace through strength, c'est-à-dire la paix à travers la force, la paix par la force. Et l'art de la guerre, il repose sur la force, une force évidemment qu'on n'utilise pas, avec la duperie et la rapidité. Ça, c'est toujours Sun Tzu. Et c'est resté toujours très actuel. Et en aucune façon, ça ne peut reposer sur la naïveté, et la France, dans cette affaire, à travers son président, a été trop naïve. Et c'est pourquoi elle se fait balader. Hein, parce que si vous regardez bien, il y a plusieurs façons de parler avec ces gens-là. Bon, c'est quand même, il faut bien dire, des dirigeants corrompus en Algérie. Bon, eh ben, on peut peut-être s'occuper des biens mal acquis. Hein. On s'en est bien occupé pour Mobutu et sa descendance. On pourrait peut-être le faire pour tous les dirigeants algériens.
Ça peut
regardez,
être une réponse,
par exemple, du côté du parc immobilier dans le 8e et le 7e arrondissement. Hein.
Donc ça, ce serait la méthode forte, la méthode musclée, selon vous.
Oui, oui. Enfin, on n'est pas obligé de le faire. Vous voyez, on peut le faire de manière très hypocrite.
Très, très courtoise.
Ça sort dans la presse, par exemple. Vous voyez.
Un chiffre...
Ah non, c'est pas le président de la République qui doit s'occuper
de ça. Non, évidemment.
Enfin, il y a des façons de le faire. Hein, ils ont les influenceurs, bah, je veux dire...
On a peut-être aussi les nôtres.
On peut balancer des infos, voilà.
Un chiffre vous interpellez cette semaine.
Parce que ça ferait mauvais effet en Algérie, hein, quand les gens verront la richesse personnelle d'un certain nombre de ses dirigeants.
Ça ferait un peu tache d'huile, effectivement.
Où ont-ils trouvé l'argent ?
Un chiffre vous a interpellé cette semaine, France, c'est celui de l'ADEME, l'Agence de la Transition Énergétique. 4 millions de Français souffrent d'éco-anxiété.
Ouais, alors c'est absolument passionnant cette affaire. 4 200 000 hein, Français. Et ça se traduit par de fortes émotions, hein, pour définir, devant la dégradation de la planète, la pollution, le réchauffement climatique. Et c'est un mal qui frappe surtout, évidemment, les jeunes, mais ça, quand on a des jeunes chez soi, hein, on le remarque, frappe surtout les jeunes entre 14 et 25 ans. Mais ça touche tous les pays, tous les continents. Et ça repose sur des réalités, évidemment, que nous observons, ne serait-ce que dans nos jardins, si nous en avons un, parce qu'on voit que la végétation change assez régulièrement. Enfin, on voit qu'on commence à... Oui, ce ne sont plus toujours les mêmes plantes qui profitent de la situation.
Le monde
alors,
change, oui.
Il y a de bonnes raisons donc d'être éco-anxieux. Mais le discours des écologistes n'arrange rien. Parce que il balance entre le catastrophisme, la décroissance, le millénarisme moyenâgeux, et puis disons la hantise de l'extinction. Et à propos des écologistes, d'ailleurs, j'ai envie de tirer ce matin un coup de chapeau à Olivier Andriès.
Hein, Olivier Andriès, qui c'est, voilà. Le patron
c'est,
de Safran.
Voilà, c'est le patron de Safran qui a lancé une petite bombe. Lors de son audition devant la commission d'enquête sénatoriale sur les freins à la réindustrialisation. En accord avec la maire socialiste de Rennes, il avait décidé d'implanter une usine de pièces de moteurs d'avion qui aurait créé 500 emplois donc à Rennes. Bronca des écologistes du conseil municipal de Rennes, À la suite de quoi, il est parti en courant. Il n'investira pas, dit-il, dans les villes à majorité écologique, ou écologiste, pardon. C'est pourquoi, sans doute, il aurait annulé le projet d'usine de disques de frein carbone qui était prévu à Fézin, dans la métropole de Lyon. Lyon, qui, vous savez, est le fief des écologistes. Alors, moi, j'ai envie de répondre qu'on ne luttera jamais assez contre la pollution et le réchauffement climatique. On ne luttera jamais assez non plus contre l'escrologie qui en a fait ses rentes et qui a fait mourir à petit feu, qui est en train de faire mourir à petit feu, faut bien dire, de grandes et belles villes qui, comme Lyon, Strasbourg ou Bordeaux, ont eu le malheur de tomber entre leurs mains. L'écologie est un problème. L'escrologie n'est pas la solution. Je dirais que c'est même le problème.
On nous a jeté des tomates, hein, disait notamment Olivier Andriès. Hein, très remonté, hein, il faut voir cette séquence effectivement à l'Assemblée nationale.
Oui, mais enfin, il a osé parler vrai. Il dit absolument la vérité, parce que les autres le font, mais ne le disent pas. Simplement, il faut que les Français soient bien conscients de ce qui arrive quand on vote escrologiste. C'est la meilleure formule, je trouve que ça leur convient très bien, parce qu'on voit très bien que l'écologie, c'est le cadet de leurs soucis.
France, on va terminer en musique. Il paraît que ça adoucit les mœurs avec ces quelques notes de Bach et sa célèbre suite numéro 1, interprétée par un violoniste, Yo-Yo Ma, ancien élève d'Harvard. Figurez-vous, l'université en plein bras de fer avec Donald Trump. Le président américain menace même ce matin d'interdire l'accueil d'étudiants étrangers à Harvard, et ce serait se priver de cet élève Yo-Yo Ma, diplômé français à l'époque en anthropologie et en musicologie. De Yo-Yo Ma, et juste le temps de vous remercier, Franz. Très belle fin de semaine.
Vous aussi, Marc.
On vous retrouve jeudi.
Ah non, pas jeudi prochain.
Ah, pas jeudi prochain.
Celui d'après. Ah ouais, je vais prendre quelques jours quand même.
Eh bien, vous avez bien raison, Franz.
Au soleil à Marseille.
Au soleil, oh là là, quelle chance. 8h57 sur Radio Classique. Dans un instant, Franck Ferrand et le flash de 9h.
Cyrus Erez, gestion de fortune, orchestre votre patrimoine en toute harmonie. Grâce à notre approche en architecture ouverte, votre patrimoine devient une œuvre qui allie sérénité, performance et héritage familial. Ensemble, composons une symphonie patrimoniale qui résonnera aujourd'hui et demain. Cyrus Erez, la gestion de fortune depuis 1989.
Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la Peugeot 208. Vous pensez, pas mal. Et si je vous dis qu'elle est proposée en version électrique, hybride ou essence, et qu'elle est à partir de 170 euros par mois, et toujours jusqu'à 8 ans de garantie offerte, là, vous pensez que c'est vous qui devriez être à son volant.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 2500 euros pour une 208 style essence neuve réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril si acceptation crédit par. Garantie à l'URCAIR, conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer.
Dans un instant, le flash de 9h et Franck Ferrand sur Radio Classique.
Mais c'est votre canapé qui fait ce bruit.
Vous méritez mieux. Vous méritez un nouveau Poltronet Sofa. Avec 30% de remise sur beaucoup de canapés comme en exposition.
Ah là, on entend quel est confort. Poltronet Sofa, 30 ans de qualité.
Et voilà.
30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin.
La météo, bonjour Chloé Sénard.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Beaucoup de pluie encore aujourd'hui.
La Corse est en vigilance orange pour pluie, inondation et 11 départements de l'Est et du Sud-Est sont eux en vigilance jaune. Il faut aussi se méfier des fortes chutes de neige dans les Alpes. Il y a même un risque d'avalanche en montagne au-delà de 2500 mètres d'altitude, en particulier sur la Savoie. Partout ailleurs, le temps est plutôt nuageux. Quelques éclaircies dans l'après-midi en Méditerranée et au bord de l'océan Atlantique. Côté température, ce matin, 14 à Paris, 12 à Biarritz, 9 à Metz et 10 à Brest. Cet après-midi, ça n'augmente pas vraiment. Maximum 17 degrés à Montpellier.
Et je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de Radio Classique. La matinale revient demain dès 6h avec Stéphane Pedrazzi. Franck Ferrand se prépare pour Franck Ferrand raconte. Dans 3 minutes, le programme ce matin, Socrate. Ce sera juste après le flash de 9h.
Chaque heure compte. Passez à l'action avec Bougardier. Des financements sur mesure pour les audacieux, de l'hypothèque à la fiducie sûreté. Et c'est sur bougardier.fr.
Et à 9h sur Radio Classique, les dernières informations, c'est avec vous Chloé Sénard.
Il n'y a pas de piste qui soit privilégiée selon le procureur antiterroriste dans l'enquête ouverte sur les attaques visant des prisons françaises. Pendant au moins 3 nuits consécutives, une vingtaine de voitures de surveillants pénitentiaires ont été brûlées et des tirs à l'arme automatique ont visé la porte de la prison de Toulon qui n'ont